Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Stéphane, ça va ?
Ouais, au top, merci.
Merci beaucoup déjà de m'accueillir. J'ai cru comprendre que ton programme était assez chargé. Sur tes rares jours en France, maintenant, depuis que tu as changé de rythme et que tu es à Tenerife, tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Tu as dit que c'était le meilleur spot en Europe pour faire de l'apnée. Donc tu es au meilleur endroit, en fait, tout simplement.
Bah ouais, moi ça me fait drôle parce que j'ai toujours lancé l'apnée dans un endroit où il n'y en avait pas à la base. Donc ça, ouais. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. C'était très sportif là pour le coup. Et en fait, c'est bien parce que j'ai quand même réussi à installer quelque chose sur Annecy et dans la région d'Haute-Savoie qui était développée. Et puis après, ça m'a permis quand même d'avoir les bons outils pour m'entraîner de manière sérieuse. Mais il manquait encore la nouvelle étape pour aller plus loin. Donc j'ai réussi, on va dire, avec les voyages à l'étranger, en m'entraînant principalement sur Annecy, à descendre jusqu'à 110 mètres. en profondeur, ce qui était déjà vraiment bien, je pense, avec ces conditions. Et là, depuis 2-3 ans, ça commence à stagner et je sens qu'il fallait franchir une nouvelle étape. Et après le Covid, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur le fait que j'avais besoin de peut-être d'autres choses. Et donc, je suis allé vers Tenerife parce qu'en fait, j'avais un pote déjà qui était là-bas qui gère la structure. Et okay. Les conditions d'entraînement sont folles. Même ouais. si l'eau est un peu plus fraîche, au final, la température est constante. Pas de courant, la piscine et les infrastructures sportives sont très accessibles. Et en plus, il y a le TID pour faire du vélo à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc, c'est juste le spot parfait. Quoi.
Mais j'ai l'impression que ouais, pour presque tous les sports, c'est un spot parfait. T'as très peu d'hiver. Il y a des conditions météo qui sont incroyables. Pour tous les sports nautiques aussi, il y a un peu de vent à certains endroits où tu peux faire du kite, tu peux faire du surf, tu peux faire un milliard de trucs. Et puis, ça reste le rythme de vie espagnol, donc ça doit être assez agréable aussi.
Ouais, ça va, c'est cool. Et la bouffe aussi. Ça va. Bon, en plus, je suis français, on peut être très exigeant, mais malgré tout, on mange bien. Ouais.
Bon, écoute, trop cool. J'ai hâte que tu me racontes tout ça. En plus, aujourd'hui, il y a un petit peu une Madeleine de Proust avec le podcast Extraterrien, parce que mon tout premier invité, c'était Arthur Guérin, Boeri. Que je crois que tu connais bien.
Ouais, on se connaît bien.
Je crois
bien.
Que vous avez fait des bêtises ensemble dans la Seine aussi, une fois, ou dans le canal. Là,
ouais, on s'est balancé dans une eau à 4 degrés. Ouais.
Pour s'entraîner avec lui, ouais, c'est ça.
Ouais, j'ai fait une session avec lui, sauf que moi, j'avais moins d'entraînement que lui. Donc j'ai dû hyperventiler beaucoup plus avant de me balancer dans l'eau.
Ok.
Mais c'était bien cool.
Donc, j'avais passé un super bon moment avec Arthur. Je lui enverrai un petit message pour le recontacter en tout cas. Et j'avais passé un super bon interview. Je sais que l'interview avait cartonné, donc j'espère qu'on fera aussi bien. J'aime bien commencer par l'enfance. Et avant de rentrer un peu sur des questions un peu techniques, j'aimerais bien effectivement de comprendre en quoi travailler l'apnée, ça peut aussi aider un sportif à travailler son endurance, sa VMA, et comme quoi il y a beaucoup d'effets collatéraux, sur la pratique de la performance de manière générale. Et puis toi, tu travailles avec beaucoup d'athlètes de haut niveau, ouais. Justement pour leur parler de ça, comprendre un peu ce que c'est que l'hypoxie, comprendre un peu aussi ce que tu vis un peu en bas, quelle température il fait, ce qui fait tout noir, ouais. Comment tu te sens. J'aime bien savoir un petit peu comment est-ce que tu es tombé dans le sport et poser la question, quel est ton premier souvenir de sport ?
Eh bien écoute, mon premier souvenir de l'apnée, c'est vraiment le plus gros que j'ai, c'est mes premières immersions Palmas Tuba en Corse, avec mes parents, avec mon père qui m'amenait avec un tout petit fusil de chasse sous-marine, que j'arrivais même pas à charger.
Ok, c'est hyper dur à charger, je crois.
Ouais, ouais, au début, quand t'es gamin, t'y arrives pas, quoi. Et donc, du coup, finalement, je faisais principalement du snorkeling. Et j'ai commencé à descendre et à aller voir un peu plus bas. Et en fait, je voyais, en plus, c'était dingue, puisque la visibilité était folle. On voyait à plus de 20 mètres. Et je voyais ce nouvel univers se dessiner en dessous de mes pieds. Et j'avais qu'une envie, c'était d'aller le découvrir, d'aller découvrir ce qu'il y avait en dessous. Et les sensations que j'avais, j'étais juste folle, cette sensation d'apesanteur, de libération pour moi, parce que j'avais beaucoup d'inconfiance en moi, de peur à l'école, et la pression sociale, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec dans l'environnement scolaire, et quand je me retrouvais en vacances, dans l'eau, en immersion, confronté à moi-même, c'était une vraie libération. Ouais.
Il s'est passé quoi à l'école pour que t'aimes pas ça ?
Ben, tout simplement, j'étais un grand rêveur, donc ouais. Je passais 95% de mon temps à être dans mes pensées, plus qu'à être présent en cours. Donc j'avais beaucoup de difficultés à enregistrer ce qui se passait. Il a fallu que je travaille chez moi, et donc c'était toujours un stress constant. Et je pense que j'ai vraiment cette sensation de pas être à ma place ou de pas avoir les compétences ou d'être peut-être pas assez intelligent ou voilà. Après, c'est alimenté aussi avec le système scolaire parce qu'on a tous eu ce genre d'expérience aussi. Je sais, quand je suis sorti du collège, par exemple, je voulais m'orienter vers des études sportives, scientifiques ou enfin plutôt sportives ou STAPS ou études de sport. Ouais. On m'a dit que j'étais pas assez... j'avais pas assez des bonnes notes pour pouvoir y aller. Donc, du coup, j'ai pris une orientation qui n'était pas du tout la mienne.
Qui était quoi, du coup ?
Un BEP en production, en usinage mécanique. L'horreur. Enfin, pour moi, c'était l'horreur. Et je m'y attache. C'était pas du tout mon truc. J'ai fait 2 ans ou 3 ans. Et après, j'ai vécu une envie. C'était de rapidement partir. Je me suis tâté pour la gendarmerie. Parce que là, on pouvait toucher du sport indirectement. Et après, la plongée est arrivée après. Et elle est revenue, en fait. Il y a un moment donné où elle a disparu, après elle est revenue, parce que je sentais que c'était vraiment ma voix et il n'y a pas de hasard si je l'avais plus jeune. Même avant, je pratiquais déjà un peu en lac pour aller découvrir ce qu'il y avait sous le lac, mais ça, même si ça me faisait un peu peur, j'invitais des potes, je commençais à y aller et en fait, l'engouement s'est nourri au fil des années. Donc, il n'y avait pas de structure, évidemment, il n'y avait rien. Donc, tout ce qu'il ne fallait pas faire dans l'apnée, je l'ai fait. Voilà.
Donc y aller tout seul, descendre en bas sans prévenir personne.
Exactement. se blesser tout seul. Voilà. Okay. Donc.
En plus, ça peut être peut y avoir des très grosses conséquences. On en parlera. J'ai vu qu'il y avait eu très très peu d'accidents ces 20 dernières années parce que ça commence à être vachement encadré maintenant. Mais du coup, toi, t'y allais tout seul comme ça, sans être coaché, sans être accompagné, sans être formé, juste par plaisir, quoi.
Au début, ouais. Après, j'étais... Il y a toujours les bouquins, il y a toujours les copains ou les relations qu'on va faire autour de l'apnée qui vont nous dire il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. J'avais pas assez d'expérience pour pouvoir et d'autonomie financière pour pouvoir bouger, faire des stages ou me former. Et c'est venu après, quand on m'a sollicité pour lancer la section apnée à Thonon, au sein d'un club de plongée, qui était le club subaquatique du Léman. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est l'occasion de développer l'apnée. Et puis, quand j'étais sur Nice, on m'a dit, à un moment donné, si t'as rien chez toi, il va falloir peut-être que ce soit toi qui lance le truc, quoi. Donc, j'avais pas forcément la motive, mais il fallait le faire. Et je suis content parce que j'ai pu... en fait, la pédagogie et l'enseignement m'a permis de me recentrer et de comprendre aussi, de prendre confiance en moi. Donc au-delà de ça, la pédagogie et l'enseignement. Et en plus, je me retrouvais, moi, à l'âge de 19 ans, à coacher des gens qui en avaient 50, qui débutaient l'apnée, alors que j'avais très peu de formation. Et c'est venu comme ça. J'ai passé mes diplômes. Je suis descendu à Monaco avec Pierre Frolla pour passer les certificats, pour pouvoir après développer l'activité aussi sur Annecy, en leur disant, il faut faire un club d'apnée, pas une section, mais faites un vrai club d'apnée pour qu'il y ait une vraie communauté qui se crée autour de l'apnée et du lac. Parce que c'était un endroit qui était magique, qui demandait qu'à être développé, surtout au niveau sportif.
Bien sûr. Ouais.
Et ils l'ont fait. Ils ont créé un club donc, et en 2010 et en 2011, je me suis installé sur Annecy pour pouvoir m'entraîner avec eux.
Génial, génial. Très belle histoire. Ça me rappelle, tu vois, quand tu abordes le fait que tu étais un rêveur et qu'en classe, tu n'étais pas forcément à l'aise, ça me rappelle une interview que j'avais faite avec Nathan Paulin. Je ne sais pas si tu vois qui c'est un garçon qui fait de la highline. Donc, en fait, il s'amuse à je crois qu'il a des records du monde, hein, de traverser sur un câble en marchant, tu vois, sur des distances incroyables. Je crois qu'il est monté jusqu'à 2,5 km. Enfin, c'est complètement fou. Ce qui est marrant, c'est que, a posteriori, ce sont des sports, que ce soit l'apnée ou la highline, je trouve, où il y a besoin d'un niveau de concentration qui est hyper intense, tu vois. Alors, je sais pas si on peut comparer entre les sports et tout.
Mais franchement, tu peux, parce que j'ai fait de la slack et c'est un truc de fou, parce que j'ai conscience de ma conscience, de l'activité
cérébrale,
mentale.
Ouais, ouais.
Et pour en avoir fait, c'est un truc de ouf, parce que t'es obligé d'être présent, en fait.
Ouais. Et je pense autant que dans l'apnée, tu peux pas avoir un dixième de seconde, tu peux pas t'écarter, quoi.
Clairement, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard si on est là. Ce sont des sports qui nous permettaient en fait de retrouver un équilibre. Donc, et moi personnellement, en tout cas, vu que j'avais beaucoup de difficultés, il a fallu fournir beaucoup d'efforts aussi pour se recentrer dans l'instant présent. Je l'ai tout de suite vu à mes premières compétitions, quoi, 2017.
Ça te fait du bien d'oublier un peu le mental, enfin d'être dans une activité qui te fait complètement oublier le mental, qui te fait oublier les pensées qui peuvent être positives ou négatives d'ailleurs.
Ah ben oui, c'est clairement. Clairement, ça me fait du bien. Ça libère complètement et on se sent beaucoup mieux. Sauf qu'au début, c'est inconscient. On ne sait pas ce qui se passe, en fait. Je ne savais même pas que j'étais hyperactif mental. Je pense que inconsciemment, on fait tous beaucoup de l'apnée aussi pour ça. Et après, je l'ai conscientisé, je l'ai compris, parce qu'il fallait que j'aille plus loin. Il fallait que je l'identifie, en fait, pour pouvoir le travailler avec, parce que l'apnée ne suffisait pas. Je pense que c'est là où j'ai compris l'importance de la pratique de la méditation. Ouais.
C'est hyper intéressant. Et t'as fait des tests, tu vois, pour savoir, je sais pas, tu vois, on parle beaucoup de haut potentiel émotionnel ou intellectuel en ce moment. On parle beaucoup d'hypersensibilité. On parle beaucoup de types de personnalité, effectivement, qui peuvent avoir un peu plus d'activité cérébrale que d'autres. Tu vois, t'as fait ce genre de tests ou c'est pas trop ça t'intéresse pas et tu veux pas regarder justement. Moi, je sais que je fais beaucoup de sport justement pour me canaliser, tu vois, cette énergie aussi. Je pense beaucoup, je me remets tout le temps en question, j'analyse un peu tout, j'observe un peu tout. J'ai l'impression d'emmagasiner trop d'informations. Et j'aime beaucoup justement faire des sports qui me mettent dedans, quoi, tu vois. Donc, soit du crossfit, effectivement, parce que tu te défonces et de toute façon, tu peux plus penser à rien d'autre. Mais aussi, ouais, de l'escalade ou des sports un peu extrêmes.
Ouais.
Moi, je fais de l'apnée, mais en statique. Tu vois, on en reparlera après, mais juste pour le plaisir. Et c'est vrai que ça vide la tête. Et je dois méditer 30 minutes par jour, facile. Du coup, ouais, ma question, c'est un peu, est-ce que tu t'es intéressé à ton type de personnalité ?
Bah oui, tout à fait. Après, mes parents m'avaient fait faire le test pour aller voir des psychiatres qui étaient spécialistes dans ce domaine-là. Et du coup, j'étais parti de l'école une journée ou deux en CM2, je crois, si je me souviens bien, pour faire ces tests. Ou en CM1, je sais plus. Enfin, c'était au primaire. Et ouais, bah ils avaient diagnostiqué en fait des choses. Quand en gros, ils m'ont dit que je crois qu'il y avait... j'avais un niveau de quatrième. J'étais en CM1. Sur l'aspect, comment dire, mécanique ou technique ou vitesse ou mentalisation, je ne sais pas comment on appelle ça. Et c'est tout. Je suis sorti de là, il n'y avait rien eu, il ne s'est rien passé, j'ai juste eu l'information. Okay. Donc ça ne m'a pas vraiment servi. Je n'ai pas vraiment appris grand-chose. Donc voilà, tout ce que ça m'a appris, c'est qu'au final, il fallait juste être dans le présent. Et ça, je l'ai appris bien plus tard.
Bien plus tard ?
Ouais. Et encore plus tard, c'est-à-dire il y a peu de temps, j'ai compris qu'au final, c'était beaucoup plus simple que ce que j'imaginais encore. Et plus ça avance, et j'ai l'impression, et plus c'est simple, l'action qu'il y a à mettre en place derrière. Je pense que le système éducatif, il est pas là pour nous en faire prendre conscience, malheureusement. Ouais. Il est plutôt là pour nous amener au travail sur ce que l'État a besoin, plus que sur les besoins individuels d'éveil de conscience, ou tout simplement juste la méditation et d'être présent, quoi, en pleine conscience. Et quand j'ai compris ça, en fait, ça m'a libéré. Ça a été une vraie libération, en tout cas, parce que je savais ce qui pouvait me faire évoluer. Je l'ai mis en place, je l'ai testé à des moments et j'ai pu voir vraiment une progression de folie, quoi.
Ok. Du coup, ouais, sur l'apnée, c'est autant des techniques, on va dire, très relatives, basé sur le corps, on va dire.
Scientifique, chimique, c'est très très technique.
Ouais. Ouais, très très technique, et en même temps, t'as une partie très très spirituelle où tu dois complètement relâcher et être vraiment dans l'instant présent, quoi.
Ouais.
Et quelle part t'imaginerais entre les deux sur la performance ?
Bah, je dirais que les deux sont extrêmement importants, surtout quand on est dans un sport où on évolue plus ou moins seul ou faiblement accompagné. On n'a pas un entraîneur qui rarement, surtout au début quand j'ai commencé ma carrière, qui me disait il faut faire ça pour progresser et être au top. Du coup, j'ai dû l'expérimenter. On échangeait, on était un peu dans le flou en fait. Encore à 10 ans, on était encore dans le flou sur l'entraînement. Même Guillaume Néry se posait plein de questions encore, alors qu'il était au meilleur niveau mondial. Donc c'était vraiment une énorme nébuleuse. Et je pense qu'il a fallu expérimenter. Ça voulait dire aussi conscientiser. Et moi, qui ai une hyperactivité mentale, c'est compliqué parce que une fois qu'on a la connaissance, on dit souvent il faut pas que des fois l'athlète il ait trop de connaissances. Parce que ça le détache un peu de juste son action pratique. Mais en fait, dans l'apnée, on est obligé, à mon sens, d'être un peu dans les deux. De connaître la physio et de pouvoir aussi s'en détacher au moment où on en a besoin. Un peu comme un couteau suisse, quoi. Tu le sors que quand t'en as besoin. Il est là, tu sais que tu l'as, mais voilà. Et il faut savoir s'en servir. Et je pense que c'est ça qui a été pour moi très formateur, parce que j'ai appris la physiologie de l'entraînement encore peut-être un peu plus profondément. Creuser au niveau de la préparation physique pour trouver le bon équilibre entre souplesse, renforcement, de trouver l'équilibre entre souplesse, adaptation physiologique en profondeur, et également le côté spirituel où là il faut se recentrer sur soi, se connecter à soi, être dans l'instant présent. Donc toutes ces choses, en fait, je pense qu'elles sont complémentaires, et c'est ce qui a fait que du coup j'ai pu prendre un max d'expérience, puis d'avoir expérimenté les syncopes, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pas faire quelque part, m'a permis de valider, de confirmer en fait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas.
Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant. Peut-être pour si on veut rentrer un petit peu dans les détails un peu plus techniques et d'expliquer un petit peu aux auditeurs. Donc toi, tu pratiques de l'apnée verticale. Alors dis-moi si je me trompe. Pour moi, je vois il y a trois types d'apnée. Il y a l'apnée statique qu'on peut faire tout seul, qu'on ne doit surtout pas faire tout seul dans son bain, mais c'est tout simplement le fait de retenir sa respiration sous l'eau. Ensuite, l'apnée horizontale ou dynamique,
ouais.
Qui se fait en piscine, et c'est tout simplement le fait de pratiquer des allers-retours dans une piscine, ou en tout cas de pratiquer la plus longue distance possible en apnée. Et ensuite, l'apnée verticale, dans laquelle il s'agit d'aller le plus profond. Et à l'intérieur de l'apnée verticale, il y a plusieurs disciplines. Et toi, tu pratiques ce qu'on appelle le poids constant.
Oui.
C'est-à-dire que tu n'es pas aidé par une gueuse ou un câble. Tu y vas à la force de ton corps,
ouais.
Donc avec un monopalme ou un bipalme, je crois. Enfin, les deux disciplines existent.
Il y a plusieurs disciplines. En fait, pour simplifier, en gros, il y a le indoor et le outdoor. Dans le indoor, c'est la piscine, donc c'est tout ce qui est horizontal. Également la apnée statique, même si on bouge pas, on reste horizontal. Même si c'est un sport à part, je pense que vraiment la statique est vraiment un sport à part, parce que comme on bouge pas, on est sur vraiment complètement un autre système de fonctionnement.
Bien sûr.
Mais qui est la base, en fait, le cœur de l'apnée, c'est la durée, mais c'est la seule discipline qui inclut vraiment l'importance du temps.
Ouais.
À part d'autres disciplines de sprint, mais ça, c'est encore autre chose. Et après, donc, tout ce qui est vertical, évidemment, sur la profondeur, là, il y a plusieurs disciplines. On retrouve les disciplines de l'horizontalité en vertical. Donc, la brasse sans palme, le bipalme, comme a fait les précédents records d'Arnaud Gérald, qu'on a pu voir, la monopalme que je pratique, et également une autre discipline qui est l'immersion libre, où là, on se traque le long de la ligne. On a le droit d'utiliser la corde avec les mains, mais par contre, on n'a pas de palme.
Super, merci d'avoir recentré, d'avoir bien expliqué. Tu vois, une personne qui est amatrice, elle ne se doute pas forcément de à quel point c'est exigeant physiquement et spirituellement, comme on vient de le dire. Donc peut-être un peu pour guider un peu les auditeurs qui découvrent, quand tu es à une centaine de mètres de profondeur, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe sur ton corps ?
Alors, je dirais qu'en prenant les choses dans l'ordre, déjà, c'est le relâchement qui est important aussi avant de partir, pour arriver à ralentir le métabolisme. Donc, il faut vraiment être recentré sur soi et se couper un peu des pensées qui nous projettent sur notre performance, et plutôt se recentrer sur le souffle, les sensations qu'on a pour atteindre cet état de relâchement physique et musculaire, pour économiser l'oxygène aussi pour la suite. Une fois qu'on est prêt, on prend notre inspiration et on descend. Et après, c'est de gérer, on va dire, l'effort pour être le plus économique possible. Et une phase après où on doit toujours être dans l'extrême relâchement. Et là, c'est beaucoup plus introspectif, parce qu'il y a un moment donné où on coule. On se laisse attiré par la profondeur, parce que forcément, il y a les pressions qui s'exercent sur les poumons, sur la combinaison néoprène. Donc, à un moment donné, on a une flottabilité neutre. Et dans cette étape-là, là, pour le coup, la statique rentre en compte dans notre performance. Il faut atteindre un état de relâchement sans bouger. Et donc, juste se relâcher.
C'est à quelle profondeur, ça, qu'il arrive ce...
Ça dépend de notre lestage, ça dépend de chacun. Il y en a qui se sous-lestent, d'autres qui se lestent un peu plus, mais on est entre 20 et 40 mètres.
D'accord. Ok, donc quand tu vas descendre à 100 mètres, tu vas palmer, on va dire, entre 20 et 40 mètres, et ensuite tu vas pouvoir beaucoup moins palmer.
C'est
parce
ça.
Que tout simplement, avec un coup, un geste de palme, tu vas pouvoir aller beaucoup plus profond, en fait.
Exactement.
Okay.
Et après, il y a un phénomène de narcose qui vient s'installer en plus grande profondeur.
Alors, ça peut faire un peu peur. Qu'est-ce que c'est que la narcose ?
Narcose, c'est un énorme shoot. Donc, c'est le côté, peut-être un des côtés addictifs aussi de l'apnée, même s'il y en a qui le vivent moins bien. En fait, c'est l'azote en pression partielle qui a un effet narcoleptique. Donc, c'est tout simplement le protoxyde d'azote qu'on peut retrouver, sauf que là, il est naturel. Il est fait par la pression de la mer.
Donc, le protoxyde d'azote, c'est un gaz hilarant.
Ouais, c'est un gaz hilarant. Mais
qui
en fait,
fait planer, en plus.
Voilà, mais en fait, c'est la même sensation. Enfin, je ne sais pas si c'est le même gaz ou quoi, mais en tout cas, c'est l'azote sous pression partielle qui influe au niveau du cerveau.
Okay.
Et donc, il a un
T'as
effet...
jamais essayé pour voir si c'était la même chose ?
C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose.
Okay.
Mais voilà. Après, je dirais que la pression qui s'exerce à ce moment-là et cette sensation de coton. On est un peu comme emballé dans du coton.
Okay.
Sensation d'engourdissement un petit peu au niveau des lèvres, au niveau des bourdonnements. Certains peuvent ressentir des bourdonnements, des pensées, des images, des flashs.
Okay.
Pour d'autres. Et en fait, c'est là où il faut arriver à canaliser son relâchement pour être vraiment garder sa concentration pour être efficient, être relâché et remonter dans les bonnes circonstances. Pas que ça augmente le stress, pas que ça augmente les pensées négatives. Donc
en
c'est
fait,
là où ça se gère.
Il faut accepter cette sensation
oui.
Et pas du tout essayer de la...
Ouais.
comment dire, de l'affronter, quoi.
Ouais, c'est ça. Après, il y en a qui le ressentent plus ou moins fort. Il y en a qui travaillent dessus. Il y en a qui le ressentent très, très peu. D'autres, beaucoup plus. Après, ça s'apprend, on apprend à le gérer. Et d'accord. Donc, sur la remontée, forcément, il y a de l'effort. Donc, ça augmente un peu l'effet dans la remontée.
Ok. Et donc, toi, un aller-retour, c'est environ 3 minutes. C'est ça, c'est dans les fourchettes que j'avais retenues.
C'est ça.
Ouais. Donc,
je suis assez rapide, en fait.
T'es un des plus rapides, justement, pour faire...
Ouais. Encore plus rapide avant, mais là, j'ai ralenti et je suis sur 3 minutes. Mais sinon, avant, ouais, ça allait très, très vite.
Ok. Est-ce que le temps que tu vas passer sous l'eau, du coup, influe ? Pourquoi est-ce que tu as cherché à accélérer ? Enfin, pourquoi tu as cherché à ralentir ?
Tout simplement parce que j'en avais marre de subir mes plongées. Parce que j'ai été plus performant en allant vite. Aussi, peut-être parce que j'avais une palme rigide et que si j'étais lent, j'avais pas forcément les mêmes techniques ou les mêmes sensations. Et le fait que j'étais moins hypoxique, parce que j'avais pas un énorme statique, j'avais pas une grosse apnée. Par contre, physiologiquement, à l'effort, je fonctionnais vraiment à l'économie. C'était plus intéressant pour moi d'aller vite. Je l'avais testé 10 fois, 20 fois en piscine et autres. Et à force de travailler mes apnées, mon temps d'apnée, j'ai réussi à rééquilibrer. Je m'apercevais que si je ralentissais en piscine, par exemple, en dynamique, j'arrivais à faire les mêmes sorties que si j'allais vite. Et là, j'ai dit « cool, je vais pouvoir enfin ralentir ». Et j'ai commencé à ralentir et à apprécier mes plongées aussi, parce que c'est le but. Mais avant, j'allais vite, y a tout qui brûle, quoi. Les jambes, ça brûle plus. L'envie de respirer est un peu plus forte aussi, parce que forcément, quand on nage plus, on a plus de CO2.
Ouais,
donc, c'est dur quoi, mentalement. Et je faisais de la perf pour de la perf. Et j'étais plus vraiment dans les sensations et le plaisir.
Okay.
Donc, moi, mon objectif était vraiment de ralentir mes apnées aussi pour kiffer mes plongées.
Du coup, si je comprends bien, en fait, quand tu allais plus vite, tu avais la sensation en remontant de manquer plus d'air, entre guillemets.
Pas forcément. Parce qu'en fait, y a plein de phénomènes physiologiques qui rentrent en jeu. Y a la vasoconstriction périphérique, c'est-à-dire quand on est tout corps qui va dans l'eau, en fait, a une vasoconstriction. Donc tout volume sanguin des bras, des jambes va vers les organes, le cœur, le cerveau. Et donc, ça permet de nous mettre en économie. Et le CO2 aussi, l'envie de respirer, c'est un phénomène qui rentre en jeu dans la vasoconstriction.
Okay.
Donc si on hyperventile et qu'on repousse le CO2, malheureusement, on a pas autant d'alerte, on n'a pas autant d'économie et l'hypoxie peut arriver beaucoup plus vite, le manque d'oxygène. Donc c'est des fois l'envie de respirer tôt ne veut rien dire. L'envie de respirer tôt des fois peut être positive sur la durée totale de l'apnée, on va dire. Okay. Et ça s'apprend, il faut apprendre à le gérer.
Quelles sont les autres sensations que tu vas avoir justement quand tu vas être en profondeur ou que tu vas commencer à remonter ? Tu as parlé de l'effet de coton, mais est-ce que je sais que ça me fait très peur, tu vois, l'apnée en profondeur, notamment pour les oreilles, tu vois. Et je pense être très sensible à la pression ou très sensible des oreilles. Qu'est-ce que tu ressens ? Ou est-ce que justement cet effet de narcose t'empêche aussi un peu de ressentir certaines choses ? Est-ce que tu sens ta cage thoracique se compresser, l'eau qui t'appuie un peu sur le visage ? Quelles sont les autres sensations que tu pourrais décrire ?
La pression s'exerçant sur la cage thoracique, elle dépend sur le corps, elle dépend aussi de notre flexibilité du moment. Moi, par exemple, l'année dernière, j'avais fait peu d'assouplissement, mais j'avais fait une grosse préparation physique de fond. Et j'ai débarqué aux Bahamas en me disant « Bon, allez, tu vas vite t'assouplir pendant 2-3 semaines. Mais ça n'a pas suffi. En fait, je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide que ça, parce que là, j'ai tâtonné sur cette préparation l'année dernière. Et je me suis rendu compte que je sentais quand même beaucoup plus la pression en bas qui s'écrasait sur ma cage thoracique et autres, même si c'était agréable, hein, c'est pas désagréable, mais c'est beaucoup plus intense. Et donc, il faut faire attention aussi pour ne pas se blesser au poumon. Parce qu'on peut aussi tirer sur les parois des tissus des poumons si on force trop en termes d'assouplissement, en termes de rigidité.
Ouais. Et donc, ça peut être très dangereux, non ? C'est quoi ? C'est des pneumothorax ?
Non, on ne peut pas en arriver jusque-là. Mais ça peut être qu'en fait, le volume sanguin qui vient justement compenser la pression qu'il y a dans les poumons puisse traverser les alvéoles. Donc en fait, on peut se retrouver à s'abîmer un peu les poumons ou faire ce qu'on appelle des œdèmes ou des squeezes.
Ok, d'accord.
Voilà, donc ça, il faut éviter absolument. Et l'objectif est d'être suffisamment souple quand on est présent. Et si je suis très, très souple, je ressens pratiquement rien tout le long de la descente, c'est vraiment très agréable. Donc le but est vraiment d'avoir un corps qui est préparé pour subir les pressions et puis d'accepter et puis surtout que ce soit très agréable. Plus on est souple, forcément, plus la plongée est agréable.
Et c'est une souplesse globale du corps ou c'est essentiellement sur les poumons, les organes, ou c'est vraiment même tous tes doigts de pied, tes chevilles.
Alors il peut y avoir plein de choses. Bah, on revient sur le phénomène de narcose qui peut avoir un effet de sensation, mais c'est vrai que c'est tellement individuel. On a tous des sensations différentes, que ce soit Alexei le Russe, que ce soit moi, que ce soit Arnaud ou Guillaume Néry, on n'a pas les mêmes perceptions, on n'a pas les mêmes narcoses, on n'a pas les mêmes... après, il y en a qui peuvent avoir similairement les mêmes trucs, mais c'est très variable, quoi. Ça dépend de notre métabolisme, notre physiologie, notre perception en fait, des sensations. Puis ça dépend aussi de l'entraînement qu'on a eu dans l'année. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est meilleur en piscine ? Est-ce que... on n'est fait que pour être dans la profondeur. voilà.
Ok. Et tu as parlé un petit peu d'un effet un peu addictif de la narcose, là. Quel est l'effet sur toi, tu vois ?
Eh ben,
ça donne envie de recommencer tout de suite ? Ça te...
Alors, ouais. Moi, je pense qu'il nous aide beaucoup en profondeur. C'est surtout pour... ça joue aussi les pressions partielles d'oxygène, parce que même si, malgré tout, on pressurise notre oxygène dans le corps, plus l'azote, en fait, a un effet d'atténuer l'envie de respirer. Et ce qui fait que quand on plonge, on a moins envie de respirer. On est bien. Et contrairement à la piscine, où ceux qui font des grosses performances en piscine, j'ai un énorme respect pour eux, et je le répète, hein, que ce soit Guillaume Bourdilla ou autre, ils ont un peu moins de reconnaissance qu'en profondeur, parce que c'est des performances qui sont très très dures, mais qui ne sont pas assez médiatisées, je pense. Et en fait, ils ont envie de respirer pratiquement tout le temps, quoi. Sur la plongée, et ça nous on n'a pas. Donc c'est un sport en apnée piscine qui est beaucoup plus accessible que la profondeur, parce que la profondeur on l'a pas à côté de chez soi tout le temps. Par contre c'est plus dur mentalement, et je trouve que le kiff de la profondeur c'est ça, c'est qu'on prend vraiment du plaisir à faire des performances et à plonger.
Moi j'avais une question sur juste après je te demanderai un peu de me récapituler comment se passent les 24 heures avant une compétition. Mais du coup, tu vois, je suis assez curieux de savoir comment s'organisent un petit peu tes performances. Parce que j'imagine que tu ne peux pas plonger tous les jours. Comment est-ce que tu sais que demain, tu peux battre ton record ou pas ? Comment est-ce que tu te fixes un peu des profondeurs ? Je suis très curieux parce qu'il y a quand même, voilà, c'est quand même très, ça peut être très dangereux si c'est mal jaugé, si tu t'écoutes pas, entre guillemets. Du coup, ouais, comment est-ce que tu peux décider de te dire « Ok, je vais faire un record » ou tiens, demain, je vais m'entraîner, mais je vais aller que à 50 mètres, par exemple. Comment ça se décide ?
Eh bien, tout simplement, il y a... Ça, on l'apprend au fur et à mesure, au niveau des sensations. Moi, si je sais que si je plonge tous les jours, il y a un moment donné où je vais être fatigué, je vais le sentir dans les jambes, je vais avoir les jambes lourdes, je ne vais pas apprécier mes plongées au niveau des sensations. Donc, la fatigue, on la sent comme ça. Après, on la sent aussi sur les sorties, en fonction de comment on est sorti. Si on est sorti facile, on n'a pas eu besoin de ventiler, ou si au contraire, on était un peu plus essoufflé, ou si encore on avait les lèvres bleues, on était vraiment essoufflé, à ce moment-là, on peut savoir si là, on est fatigué, on l'est un peu moins, il faut prendre plus de repos ou peut-être diminuer les profondeurs. Et ça, on l'adapte et on l'étalonne au fur et à mesure des années, en fait. On apprend. Moi, je sais que maintenant, j'ai mes habitudes. Je sais que je peux encaisser une plongée profonde, un day-off, une plongée profonde, un day-off pendant 4-5 jours.
Ok.
Pendant 6-7 jours, une semaine. Et à un moment donné, il va falloir prendre 2 jours de repos obligatoire. Parce que ça sera... Voilà. Après, d'autres sont capables d'en encaisser plus. Après, il y a... Ça, chacun a des capacités de récupération plus ou moins différentes. Et après, ben, l'alimentation, la préparation avant une compétition, ça, c'est pareil. Ça s'apprend au fur et à mesure. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de soucis d'hypo, où j'arrivais avant de plonger. D'hypoglycémie, où j'ai manqué de sucre. Lié au stress de plongée, et puis j'ai un métabolisme qui brûle beaucoup, à l'inverse d'un Arthur, qui lui a un métabolisme, je pense, plutôt lent. Moi, j'ai un métabolisme à l'inverse qui est vraiment type feu, quoi. Donc je brûle tout ce qui rentre. Alors je l'ai ralenti un peu avec certains entraînements fonciers et cardio pour arriver justement à canaliser toute cette énergie. Mais du coup, il fallait que je mange le matin, quelque chose, pour arriver à faire la performance. Et si je suis en compétition, je sais que c'est différent parce que j'ai pu expérimenter que le petit shaker liquide que je me buvais à l'entraînement, avant mes entraînements, n'était pas suffisant pour la compétition.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Parce que le stress compétitif dans la matinée et autres me fait griller beaucoup d'énergie, me pompe beaucoup d'énergie. Donc du coup, j'ai décidé de faire carrément un vrai repas à 5 heures avant. Quoi. Donc, okay. Si la plongée est tardive, évidemment.
Ok, donc c'est même donc les quelques heures avant ta plongée qui vont et tout ce stress, toute cette préparation qui vont être aussi consommatrices en calories que la performance en elle-même.
Ouais, exactement.
Okay.
Et j'ai remarqué que si on avait quelque chose dans l'estomac, ben, le corps avait la possibilité d'aller chercher longtemps dans la matinée tout ce dont il a besoin. Et ça améliorait complètement la plongée. Il n'y avait plus rien à voir. C'était le jour et la nuit quoi, sur les sorties. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que je prenne vite les habitudes.
Okay.
Mais c'est super intéressant. Après, il y a d'autres points extrêmes où, par exemple, si je pense à Walid Boudiaf, lui pareil, lui c'est moi mais en pire. Je sais que lui il faut vraiment qu'il mange même avant, il peut manger juste avant, c'est bon pour lui quoi. Donc voilà, après on est tous pareil.
Mais du coup il a quand même, il y en a qui arrivent à descendre l'estomac plein.
Alors
et ça pose pas de problème
pas plein,
sur la
mais
pression.
Il a un système digestif qui est très rapide. Mais voilà, on est pareil, on digère pas de la même manière quoi. Donc moi je sais que je peux être amené à être long à digérer, mais faut que je choisisse ce que je vais manger quoi. C'est sûr que je vais pas m'enfiler un énorme plat de pâtes juste avant de plonger quoi, ça, c'est pas possible. Ça passera jamais.
OK.
Donc voilà.
Ce que j'aimerais qu'on fasse c'est imaginons c'est quand ta prochaine compète?
La prochaine compète c'est fin juin Villefranche, ouais, Villefranche Nice.
Mais ce qui peut être intéressant c'est est-ce que on pourrait se projeter et se visualiser, tu vois, ensemble de qu'est-ce que tu dois faire comme grandes étapes pour cette compétition, et après on se fera peut-être un focus sur les 24 heures avant, je pense il y a plein de choses hyper intéressantes qui se passent, je pense, pas longtemps avant de ta performance. Est-ce que tu sais dès maintenant quelle profondeur tu as envie de faire?
Eh ben
à cette compétition qui est fin juin.
Bah là c'est loin pour moi. C'est vrai que c'est loin pour moi parce que j'ai la spécificité maintenant de pouvoir plonger toute l'année profond. J'ai des adaptations qui sont maintenues et j'arrive sur une finalisation de ma préparation où je vais plonger beaucoup. Donc forcément tout va s'améliorer là dans ce mois-ci. Donc je pourrais pas dire vraiment précisément à quelle profondeur je serai.
Okay. Donc plus tu te rapproches d'une compétition, plus tu vas plonger.
Exactement. Plus je vais plonger et me rapprocher de mes performances maximales et les dépasser peut-être.
Okay.
Donc c'est en cours. Donc ça on le verra sur le moment. Ouais.
Et est-ce que tu es dans les mêmes conditions en compétition qu'à l'entraînement? Parce que je crois qu'en compétition tu es obligé, avant de partir, de définir une distance.
Ouais, c'est exact. Ben, c'est pareil à l'entraînement. Et sauf que l'annonce on la fait pas la veille, on peut la faire sur le bateau avant de plonger.
Ouais.
Par contre en compétition, on annonce une plongée la veille au soir. Tout le monde annonce à la veille au soir.
Okay.
Parce qu'on sait ce qu'on a fait à l'entraînement, on sait ce qu'on est capable de faire. Par contre, il faut prendre en compte aussi le stress de la compétition. On ne peut pas se permettre d'aller chercher le max du max le jour J. Sauf s'il y en a qui le font aussi, hein, ça peut être possible. Et après, vers 17h, 18h, ils clôt les inscriptions. Et là, après, ils affichent les départs. Donc c'est un bulletin secret, personne ne sait ce que l'un ou l'autre a annoncé. Et après, on a tous les départs dans l'ordre avec les profondeurs et les top times. On part à telle heure, à la minute précise. Et on a 30 secondes pour partir après le top officiel. Donc en gros, chronologiquement, on prend le truc en sens inverse pour savoir quand c'est que j'arrive sur la plage, je vais m'équiper ou au bateau. Pour arriver près 3, 4, 5 minutes avant, avec notre longe, on se clip sur la ligne. Et on descend. Donc la ligne est réglée à la profondeur que l'on a annoncée. On ne peut pas aller plus bas.
Okay.
C'est une sécurité. C'est vraiment important aussi pour la logistique, les personnes qui nous encadrent. Et à ce moment-là, on part sur notre plongée et on n'a plus qu'à faire le travail, on va dire. En sachant qu'en surface, il y a des systèmes de sécurité. On a aussi des apnéistes de sécurité qui viennent nous rejoindre dans les derniers mètres au retour. Parce que c'est là où c'est le plus important.
Ok, hyper intéressant. Et si on revient, tu vois, sur un peu la préparation et un peu se fixer des objectifs, comment est-ce que tu peux le faire? En fait, j'arrive pas à saisir le fait que après il y a une dimension qui est forcément qui est physique et qui est sécuritaire, mais comment tu peux te dire ok là dans 3 mois je vais essayer de de battre mon record, tu vois, si tu de, tu, est-ce que tu peux monter un protocole pour y arriver et pour essayer de faire?
Ouais, bien sûr, c'est exactement ce qui est en place. En fait, une planification, maintenant, avant j'étais moins dans la planification, maintenant je planifie vraiment sérieusement. C'est-à-dire que toutes mes semaines, elles sont définies avec une routine, mais au moins, voilà. Chaque jour est défini avec là je plonge, là j'ai ma prépa physique, là j'ai ma piscine, j'ai mon truc. Et plus je m'approche de l'échéance, moins le physique est présent. C'est juste du maintien. Et après, je vais plonger. Au début, il y a une période où je vais faire beaucoup de volume en profondeur pour répéter, mais je ne pourrais pas répéter les plongées profondes, malheureusement.
Parce que tu vas à quelle distance, à quelle profondeur à ce moment-là ?
Sur répéter, je peux faire des exercices sur 50, 60. Après, je vais faire pas mal d'expi pour maintenir la souplesse, mais je vais aussi avoir des jours où je vais plonger profond, où je vais faire une seule descente, ou alors un petit échauffement et je plonge. Mais on ne peut pas répéter les plongées profondes parce qu'on risque aussi d'avoir des accidents de décompression, comme en plongée, si on répète trop les descentes. Nous, on n'a pas de palier, on peut remonter direct à la surface, mais on ne peut pas s'amuser à répéter des 100 mètres. Quoi.
Ouais.
Donc, voilà. Ce qui fait que ça limite les tests. Ouais. Tests, ils se font au fur et à mesure. Donc, il va y avoir un jour où je vais faire, je sais que le 100 mètres, c'est la promenade pour moi. Donc, je vais faire mon 100 mètres. Après, deux jours après, je vais faire 105. 10 jours après, je vais faire peut-être, si je suis très très bien à 105, je vais rajouter peut-être 3 mètres de plus. Mètres de plus. Et puis, en fait, le but, c'est à 3 semaines de l'échéance, on commence déjà les plongées profondes progressives pour arriver près le jour J. Ce qui fait que plus on approche de l'échéance, plus on sait ce qu'on va être capable d'annoncer. Et je pense que c'est dans la dernière semaine où on va se dire, OK, je peux aller chercher ça. Maintenant, je prends en compte que c'est ma première compétition de l'année. Qu'est-ce que tu as envie ? Est-ce que tu as envie de te mettre la pression ? Ou est-ce que tu as envie d'y aller à la cool pour prendre de la confiance ? Moi, j'ai envie de prendre de la confiance et du plaisir. Donc, je vais annoncer un truc que je sais faire et avec lequel je vais avoir du sourire, avoir du smile pour prendre de la confiance. Et puis après, commencer à aller un peu plus loin. Par exemple, il y a les championnats de France qui se sont après, où là, je vais faire les minima pour l'équipe de France, pour me sélectionner en équipe de France. Mais l'aspect canaliser son mental est vraiment important. Parce que moi, je sais que ça a un impact aussi. Je l'observais pas ça avant, mais maintenant, je sais qu'il faut que je canalise cette envie, quoi. Donc, okay, même si on pourrait aller à 10 mètres de plus bas ou 5 mètres plus bas, il faut aussi accepter de se freiner pour créer une frustration positive, pour être prêt sur les échéances dont on a vraiment besoin de pousser un peu plus. Okay. Et pour moi, il y aura les Bahamas aussi au mois d'août. Donc, c'est la compétition de l'année, le Vertical Blue, sur 10 jours. Et là, c'est une compétition où on peut monter progressivement.
Vous êtes tous là. Ouais.
Ouais. On peut monter progressivement sur nos performances et se faire évoluer. Ouais.
Et ça peut arriver le sentiment de frustration, de se dire... Ok, aujourd'hui, je sais pas, je vais faire 105. Et en fait, en descendant, tu te rends compte que tu étais super bien et que tu aurais pu annoncer plus, tu vois.
Moi, je préfère que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre. Parce oui, que si tu arrives, tu sors hypoxique alors que tu es sur une plongée que tu maîtrises, ça, c'est vraiment les boules. Je dirais que maintenant, je sais pourquoi. Avant, des fois, je savais pas pourquoi. Des fois, je pouvais sortir plus hypoxique qu'un autre jour. Maintenant, je sais. Au niveau de mes sensations, même avant de partir, je sais comment je me sens. Je sais aussi si je fais un cardio la veille ou l'avant-veille, ça va avoir un énorme impact sur ma plongée, peut-être moins qu'une séance de muscu, paradoxalement, tu vois. Si je fais de la muscu, je suis capable de sortir une perf le lendemain. Par contre, je sais qu'un cardio, un peu moins. Alors ça, c'est pas des trucs que je fais en compétition, évidemment. C'est des trucs qu'on fait en milieu de saison. Mais ça permet de savoir aussi comment réagit notre corps et combien de temps il a besoin de récupérer pour être bien. Là, j'ai fait un break d'une semaine de 4-5 jours sans apnée. Et je suis parti au lac me faire un entraînement avec les copains à Annecy, là. Et c'était un truc de fou, quoi. Je suis arrivé en bas, c'était trop bien. J'ai l'impression d'avoir mes 3 poumons. Parce qu'en fait, la récupération fait que ça fait une belle surcompensation. Et j'avais une sensation de facilité au fond. Et là, je sais que je suis sur la bonne voie parce que c'est des trucs que je ne faisais pas l'année dernière. En termes de fraîcheur, genre toujours plus frais. Là, je pourrais raconter une anecdote qui va être pas mal. J'étais avec Omar, le gérant de la structure, et puis il me dit « Ouais, il y a un petit peu de courant aujourd'hui. » Alors qu'à Tenerife, il y a rarement du courant. C'est peut-être la seule session où il y avait du courant. Et je voulais faire 100 mètres. Et il me dit « Bon, il y a un petit peu de courant de surface, mais après, c'est bon, ça se pose. Ça arrive souvent. » Donc je dis « Ok, bon, c'est bon, je fais ma plongée. » Et là, je pars. Et il y avait un peu de boue. peu de nuages, c'était un peu obscur, il y avait, tu vois, moins l'envie, moins le kiff avec le soleil en surface avant, quoi.
Ok.
Bref, j'étais un petit peu, peut-être un peu plus frileux, et puis bon, je commence à descendre, et puis je sens que, en fait, je suis pas super droit, c'est-à-dire qu'en fait, ça pousse, et je suis obligé de récupérer à chaque fois pour revenir vers la ligne. Mmh. Donc en fait, le courant, il était constant.
Okay.
Il m'a pas menti, marin, mais, mais sur le moment, le courant était continu jusqu'en bas.
Ouais.
Et j'y bois, je ravale un petit peu ma compensation parce que tu sais, on a des techniques pour compenser les oreilles en faisant des réserves dans la joue. Et là, j'ai perdu un peu le volume d'air.
Ouais, donc vous gardez l'oxygène dans les joues.
Dans les joues pour compenser les oreilles.
Ouais,
et
okay.
si tu ravales, si tu relâches un peu ta glotte, tu perds.
Ouais.
Et donc, du coup, je dis bon, allez, ça sert à rien de trop forcer les choses. Je fais demi-tour. Je remonte en surface et tout. Et là, au moment où je remonte en surface, hein, je bataille quand même avec le courant.
Ouais.
Donc, tu vois, c'est pas cool parce que c'est un peu stressant. Tu nages, en fait, un peu comme ça vers ta ligne, tu vois. C'est pas parfaitement vertical, surtout qu'il y a plus d'efforts à fournir. Et donc, j'arrive vers la surface, j'accroche ma ligne et puis je râle, tu vois. Je suis putain, chier ce courant. Et je n'ai même pas pratiquement essoufflé, quoi. Et du coup, je dis, ouais, j'ai fait demi-tour. Je dis, Omar, bon, bah, c'est mort, c'est pas grave, on refera dans deux jours, quoi. Puis là, je regarde ma montre et en fait, c'était 100 mètres. Je venais de tourner à un mètre en fait de la balle, enfin, du fond.
Okay.
Et là, je venais de réaliser que j'ai sorti le premier truc que j'ai fait, c'était râler. J'étais pas essoufflé, j'ai fait une plongée à 100 mètres dans le courant en 3 mm. Et là, je me suis dit, mec, ah, t'es bien. C'est okay. Super positif pour la suite, quoi. Donc ça, okay. C'est le genre de repère qui fait du bien au moral, quoi.
C'est dingue. En tout cas, moi, ça me passionne. Et il fait tout noir au fond. J'ai pensé à ça. On pense qu'il fait tout hyper sombre.
Alors, s'il fait hyper sombre, ça veut dire que t'es vraiment trop profond. T'es plutôt vers 500 mètres. Parce qu'on a un bleu, mais il est un peu plus profond. Enfin, ça dépend si c'est bien couvert ou s'il y a beaucoup de particules dans l'eau. Mais normalement, non, il fait toujours bleu, on voit toujours la ligne. Sauf au vertical blue, pour le coup, parce que c'est comme une cénote. Donc, on plonge en fait dans un puits.
Dans un puits, ouais.
Dans un puits naturel qui est assez grand, mais du coup, en fonction de
Du coup, il n'y a aucun courant là-dedans, quoi.
Au niveau de la visibilité, non, il n'y a aucun courant. Il n'y a aucun courant.
Par contre, tu vois un trou tout
au niveau de la visibilité, ça peut être plus trouble. Et quand on arrive en bas, il peut faire un peu noir, quoi. Donc là, on a une petite loupiote. Mais moi, je ne suis pas trop gêné, étant donné que j'ai l'habitude de m'entraîner en lac, ce qui fait sombre beaucoup plus rapidement. Et voilà. Mais en mer, non, il fait toujours plus ou moins bleu, quoi.
Ok.
Bleu plus sombre, mais bleu.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.